Chapitre 2. L'endroit choisi par James pour mettre fin à ses jours se situait sur l'île de la Cité, à 50 mètres du pont neuf, large et illuminé, mais il faisait sombre en bas sur la berge et plus sombre encore sur le promontoire, léché par les eaux froides et obscures de la Seine qui tourbillonnait contre la pierre couverte de mousse noire. Même en plein jour, le lieu était peu fréquenté. Des prostituées y venaient parfois la nuit, mais pas par un soir glacial et brumeux de mars comme celui-là. Ce soir-là, elles avaient préféré rester à proximité de leurs hôtels de Pigalle ou chasser le client dans les ruelles bordant le boulevard Saint-Germain bien éclairé. Quand James, se guidant avec la pointe de son parapluie, eut rejoint le promontoire qu'il avait repéré à la lumière du jour, il était exactement tel que dans ses souvenirs de précédents séjours à Paris, il ne vit plus son chemin. De l'autre côté de la Seine, la pluie dessinait des halos moqueurs autour de lointains réverbères. Les péniches et taxis fluviaux étaient peu nombreux ce soir-là. James descendit à tâtons les dernières marches jusqu'à l'étroite esplanade et continua d'avancer en se servant de son parapluie comme un aveugle de sa canne. Très loin au-dessus de lui, du moins lui semblait-il, les bruits d'ordinaire distincts des roues de voiture et des sabots des chevaux étaient étouffés et rendus plus distants, presque irréels, par la pluie qui redoublait et les profondes ornières des chaussées. James sentait, entendait et humait le fleuve tout proche, plus qu'il ne le voyait dans le noir quasi complet. Seul le vide que rencontra soudain la pointe de son parapluie, là où aurait dû se trouver un pavé, le fit s'arrêter au bord de ce qu'il savait être le bout du promontoire courbe. Aucun escalier ne descendait jusqu'au fleuve. Il n'y avait qu'un à-pic d'environ 2 mètres jusqu'aux eaux noires et agitées. Ici, la Seine coulait vite, elle était profonde et traîtresse. Il suffisait à James de faire un pas en avant pour disparaître dans le néant. Il sortit la petite tabatière de sa poche intérieure et passa ses doigts dessus. Le geste lui rappela un entrefilet lu dans le Times l'année précédente, disant que les Esquimaux de l'Arctique ne faisaient pas d'œuvres d'art visuel, mais sculptaient certaines pierres lisses qu'ils pouvaient admirer au toucher durant la longue nuit polaire. Cette pensée le fit sourire. Il avait le sentiment d'avoir passé suffisamment de mois de sa vie dans la nuit polaire. Lorsqu'il avait volé quelques pincées des cendres de sa sœur l'année précédente, Catherine Loring attendait derrière la porte au crématorium où elle était venue chercher l'urne qu'elle remporterait en Amérique, au cimetière de Cambridge où se trouvait la concession des James. Il avait eu l'intention sincère d'aller les répandre à l'endroit où sa jeune sœur avait été la plus heureuse. Mais les mois passant, il avait pris conscience que cette mission était aussi idiote qu'impossible. Il se souvenait du fragile bonheur d'Alice quand, beaucoup plus jeune, ils avaient voyagé en Suisse avec leur tante Kate, une femme aussi pointilleuse que le fossoyeur de Hamlet. Les névroses hystériques dont souffrait déjà Alice s'étaient un peu apaisées durant ces quelques semaines loin du reste de sa famille et de son foyer américain. La première idée de James pour son 50e anniversaire avait donc été de se rendre à Genève et de disperser les cendres d'Alice là où ils avaient ri et rivalisé d'esprit tandis que la pauvre tante Kate ne comprenait rien à leur ironie ni à leur jeu de mots. Où ils s'étaient promenés dans les jardins en bordure du lac en se moquant gentiment l'un de l'autre et de leur tante. James avait fini par renoncer à l'idée de Genève. Durant ce voyage, Alice avait seulement fait semblant d'être guérie de ses maux, tout comme il avait fait semblant d'être complice de son fragile entrain. La pointe de terre près de Newport alors, là où elle avait construit sa petite maison et vécu en apparence heureuse et en bonne santé pendant presque un an? Non. Cela correspondait au début de sa relation avec Mademoiselle Loring et les mois passants, après la mort d'Alice, il avait songé avec une aigreur grandissante que Mademoiselle Catherine P. Loring avait déjà assez profité de sa sœur dans tous les sens du terme. Pas Newport, donc. En définitive, il n'avait pu penser à aucun endroit où Alice avait été véritablement heureuse et où il aurait pu répandre ses quelques pitoyables cendres. Peut-être avait-elle entrevu le bonheur, sans jamais véritablement le saisir, durant ces mois et ces années à Newport puis à Cambridge, avant ce qu'elle appelait le terrible été 1878 où son frère aîné, William, avait épousé Alice Gibbons. Pendant longtemps, Ses frères, Henry, Bob, Wilkie et même William, leur père ainsi qu'un défilé incessant de visiteurs, avaient entretenu la plaisanterie selon laquelle William l'épouserait, elle, Alice James. La jeune femme avait toujours fait comme si cette plaisanterie récurrente l'agaçait, mais Henry James soupçonnait à présent qu'elle avait commencé à croire à ce mariage avec William et avait été anéantie lorsqu'il en avait épousé une autre. Une autre, cruelle ironie, portant le même prénom qu'elle. Comme elle l'avait dit une fois à Henry, c'était pendant cet été du mariage de William qu'elle s'était enfoncée dans les profondeurs de la mer et que les vagues sombres s'étaient refermées sur elle. De sorte que cette nuit, cette ultime nuit, James décida qu'il se contenterait de serrer dans sa main cette tabatière contenant les vestiges de la timide existence d'Alice, quand il ferait ce pas en avant pour plonger dans l'eau noire et dans l'oubli. Pour y parvenir, il le savait, il devrait brider son imagination d'écrivain, ne pas se demander, dans la seconde qu'il lui faudrait pour franchir ce pas, si le fleuve serait glacial ou si, au moment où les eaux sales de la Seine commenceraient à remplir ses poumons, son instinct de survie le ferait se débattre, tenter de nager jusqu'à la paroi moussue et glissante du promontoire. Non, il ne devait penser à rien, sinon à laisser sa douleur derrière lui. Faire le vide dans son esprit, toujours la chose la plus difficile pour lui. James avança un pied, et s'aperçut soudain que la forme sombre qu'il avait prise pour un réverbère était en réalité la silhouette d'un homme se tenant à moins d'un mètre de lui. Alors qu'il distinguait le contour vague du chapeau mou très enfoncé et le profil aquilin à moitié caché par le col remonté d'une cape de voyageur, James entendit la légère respiration de l'homme. Ravalant une exclamation, James recula gauchement de deux pas.
« Pardonnez-moi, monsieur, je ne vous avais pas vu. »
Réussit-il à dire « Vous êtes anglais ?» déclara la haute silhouette. L'inconnu avait un accent scandinave. Suédois, norvégien, James n'aurait su le déterminer.
« Oui. »
James se tourna pour repartir vers les marches et quitter cet endroit. À cet instant, un rare bateau-mouche, rare pour la saison, passa et la lumière des lanternes de tribord éclaira soudain le visage de l'homme.
« Monsieur Holmes ?»
dit James de manière presque involontaire. Dans sa surprise, il recula encore, son talon droit se retrouva dans le vide, et il aurait fini dans l'eau si le grand homme n'avait pas tendu le bras à la vitesse de l'éclair. De longs doigts saisirent le devant de son manteau avec une force surprenante, et d'un seul mouvement, l'inconnu ramena Henry James en sécurité sur le promontoire. Retour à la vie. « Comment m'avez-vous appelé ?» l'interrogea l'homme, tenant toujours fermement le manteau. L'accent scandinave avait disparu. L'intonation était de la pure aristocratie anglaise.
« Je suis désolé, »
bégaya James.
« J'ai dû me tromper. Veuillez m'excuser d'avoir troublé votre solitude. »
À cette seconde, Henry James non seulement connaissait l'identité de l'homme de haute taille, malgré les cheveux plus noirs que lors de leur précédente rencontre, 4 ans plus tôt, plus fournis aussi, et bizarrement dressé en pointe et non plus lissé en arrière, et malgré l'épaisse moustache, absente la dernière fois, ainsi qu'un nez remodelé avec du latex de comédien ou une autre résine, mais il savait aussi que l'individu avait été sur le point de se jeter dans la Seine quand il était arrivé dans l'obscurité, s'annonçant par le martèlement de son tapataire. Il se sentait idiot en cet instant. Henry James était un homme à qui rien n'échappait. Une fois qu'il avait vu un visage et appris le nom de son propriétaire, il ne les oubliait jamais. Il tenta de s'écarter, mais les doigts puissants agrippaient toujours son manteau.
« Quel nom m'avez-vous donné ?» demanda l'homme.
Sa voix était aussi froide que le fer en hiver.
« Je vous ai pris pour quelqu'un que j'ai déjà rencontré, un certain Sherlock Holmes, » murmura James,
à présent seulement désireux de s'en aller, de retrouver le confort de son lit et de son hôtel de la rue de la Paix.
« Où nous sommes-nous rencontrés ?» insista l'homme. « Qui êtes-vous ?»
James ne répondit qu'à la deuxième question.
« Je m'appelle Henry James. »
Dans sa soudaine panique, il faillit ajouter le junior qu'il avait pourtant abandonné depuis longtemps.
« James, » dit Sherlock Holmes. le jeune frère du grand psychologue William James. Vous êtes l'écrivain américain qui vit la plupart du temps à Londres. En plus de l'intense gêne d'être ainsi tenu et touché par un autre homme, Henry éprouva un ressentiment plus vif encore d'être identifié comme le jeune frère du grand William James. Son aîné n'était même pas connu, en dehors des petits cercles étroits de Harvard, avant de publier ses principes de psychologie 3 ans plus tôt. Pour des raisons échappant largement à Henry, l'ouvrage avait valu à William une renommée mondiale chez les intellectuels et autres analystes de l'esprit humain. « Je vous prie de bien vouloir me lâcher sur le champ !» ordonna-t-il du ton le plus ferme qu'il put. Dans son indignation, il en oubliait que Holmes, il était certain qu'il s'agissait de Sherlock Holmes, venait de lui sauver la vie. À moins que ce sauvetage ne constituât une autre raison d'en vouloir à cet Anglais au nez aquilin. « Dites-moi quand nous nous sommes rencontrés et j'obéirai, » répondit Holmes sans lâcher sa prise. « Mon nom est Jan Sigurdsson. Je suis un explorateur norvégien d'une certaine notoriété. »« Mille excuses alors, sœur, » dit James qui n'en pensait pas un mot. « Je me suis manifestement trompé. » Pendant une seconde, dans l'obscurité, je vous ai pris pour un gentleman que j'ai rencontré il y a 4 ans lors d'un thé de charité à Chelsea. La réception a été donnée par une Américaine de ma connaissance, Madame T.P. O'Connor. J'y suis arrivé avec Lady Wolseley et d'autres écrivains et artistes de théâtre. Monsieur Aubrey Beardsley, Monsieur Walter Besant, Pearl Craigie, Mary Corelli, Monsieur Arthur Conan Doyle, Bernard Shaw, Geneviève Ward. À cette occasion, j'ai été présenté à un invité du nom de Sherlock Holmes qui passait le week-end chez Madame O'Connor. Je me rends compte à présent qu'il n'y a pas de réelle ressemblance. Holmes le lâcha. Oui, je m'en souviens maintenant. J'ai brièvement séjourné dans la résidence de campagne de Madame O'Connor le temps de résoudre une série de vols de bijoux. C'étaient les domestiques, bien sûr, comme toujours. James rajusta le devant de son manteau, remit sa cravate droite, planta fermement le bout de son parapluie par terre et résolut de quitter Holmes sans plus un mot. Remontant les marches sombres, il s'aperçut avec étonnement que l'autre marchait à côté de lui. « C'est incroyable, vraiment !» dit le grand Anglais avec ce léger accent du Yorkshire que James avait entendu au thé de Madame O'Connor en 1889. J'utilise ce déguisement de Sigurdsson depuis 2 ans, et j'ai croisé, en plein jour, des personnes que je connais depuis des années, sans qu'elles me reconnaissent. À Delhi, sur une place peu animée pendant plus de 10 minutes, je me suis tenu à côté de l'inspecteur chef Singh, un homme avec qui j'ai passé 2 mois à résoudre une délicate affaire de meurtre à Lahore. Et ce professionnel aguerri ne m'a pas adressé un regard. Ici même, à Paris, j'ai croisé de vieilles connaissances anglaises et j'ai demandé mon chemin à mon vieil ami Henri Lauzé, l'ancien préfet de police de Paris, avec qui j'ai travaillé sur 10 d'enquêtes. Lauzé se trouvait avec son successeur, Louis Lépine, avec qui j'ai aussi entretenu d'étroites relations professionnelles. Aucun des deux ne m'a reconnu. Mais vous, oui. Dans le noir, sous la pluie. Alors que vous n'aviez en tête que le suicide. « Je ne vous permets pas !» s'écria James en s'arrêtant, outré par le culot de Holmes. Ils avaient rejoint la rue. La pluie s'était un peu calmée, mais les nombreux réverbères conservaient leur halo. « Votre secret est en sécurité avec moi, monsieur James. » l'assura Holmes. Il essayait d'allumer sa pipe malgré l'humidité. Quand l'allumette finit par s'enflammer, James eut confirmation qu'il s'agissait bien du détective privé consultant qu'il avait rencontré au thé de Madame O'Connor 4 ans plus tôt. « Voyez-vous, » poursuivit-il, parlant entre des bouffées de pipe, « j'étais là pour la même raison que vous. » James ne sut que répondre à cela. Il tourna les talons et partit vers l'ouest. Holmes le rattrapa en 2 enjambées. « Nous devons trouver un endroit où dîner malgré l'heure tardive, monsieur James. »« Je préfère être seul, monsieur Holmes, monsieur Sigurdsson, qui que vous prétendiez être ce soir. »« « Il faut pourtant que nous parlions », insista Holmes. Il ne semblait pas en colère ni troublé d'avoir été reconnu, ni frustré que son propre suicide dans la scène ait été compromis par l'arrivée de l'écrivain. Il paraissait seulement fasciné que James les perçait à jour malgré le déguisement. « Nous n'avons absolument rien à nous dire », répliqua James. Il tenta de marcher plus vite, mais sa corpulence lui donna surtout l'air idiot, d'autant que l'anglais maintenait l'allure sans effort. « Nous pourrions discuter de la raison pour laquelle vous vouliez mettre fin à vos jours en serrant si fort dans votre main la tabatière contenant les cendres de votre sœur Alice. » James s'arrêta net. Au bout d'un moment, il déclara
« Vous ne pouvez pas savoir une chose pareille. »
« Et pourtant si, » répondit Holmes tirant toujours sur sa pipe. Et si vous vous attablez avec moi devant une collation et un bon vin, je vous expliquerai comment je le sais et pourquoi je sais que vous n'accomplirez jamais la sinistre besogne que vous vous étiez assignée ce soir, monsieur James. Et je connais justement un café agréable et bien éclairé où nous serons à l'aise pour parler. Holmes prit James par le coude et bras dessus, bras dessous, ils remontèrent l'avenue de l'opéra. Henry James était trop choqué, étonné et curieux pour résister.